94,3 FM.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyses, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Chiz 94,3 avec Cédric
et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante. Communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Je m'appelle Paola Casillas, vous écoutez Chiz 94.3, la radio des étudiants de l'Université Laval.
Bon mardi à tous et à tous. Ici Noémie Fontaine, votre animatrice, et vous écoutez Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Aujourd'hui, on reçoit à l'émission une belle brochette de chroniques heureuses. On commence l'émission avec Élise Rivrain, nouvelle chroniqueuse à Chérie, j'arrive, qui nous chroniquera sur l'art visuel. Et cette semaine, c'est de passages insolites que nous parlerons ensemble. Par la suite, à 16h45, nous recevrons Amy pour parler de films queer. Et à 5h, pour terminer en beauté, nous recevrons Maxime Desmeules pour parler de nouveautés littéraires. C'est avec Élise Rivrain, nouvelle chroniqueuse à Chérie, j'arrive, que nous commençons l'émission. Salut Élise!
Allô!
On est super content de t'avoir dans l'équipe de Chérie, j'arrive. En fait, moi, je suis contente, c'est moi la directrice des arts, fait que c'est moi qui est contente. Mais aussi, je suis vraiment heureuse d'avoir une chroniqueuse pour parler d'art visuel, d'art de rue. Pourquoi t'as choisi ce thème? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne déjà à la base?
Pour moi, c'est quelque chose qui me passionne justement du fait que les arts publics vont beaucoup rejoindre le public sans nécessairement demander que le public va les voir. Donc, il y a vraiment une accessibilité. Puis, c'est justement facile d'aller aller à la rencontre des arts et des cultures de cette manière-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup.
C'est vrai. De rendre... En fait, l'art de rue, ça démocratise l'art. Puis, ça la rend accessible aussi, comme tu le dis.
Exactement.
Là, surtout, on va parler d'un projet, un passage insolite,
oui.
Une action totalement gratuite que tu es allée voir ce week-end dernier.
Mais oui, j'ai été voir Passage insolite en fait jeudi passé.
Puis peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que Passage insolite pour les auditeurs auditrices qui ne connaîtraient pas déjà le Passage insolite?
Passage insolite, c'est un parcours d'œuvres d'art public qui est fait par la compagnie Ex-Muro et financé par la Ville de Québec. Donc, ça se déroule du 22 juin au 9 octobre, donc ça se termine très bientôt. Et c'est à chaque année, depuis 2014, donc cette année, c'était la 10e édition. Et c'est justement, comme j'ai dit, un parcours d'œuvres d'art public. Donc, c'est 18 œuvres d'art cette année de plus de 40 artistes locaux, nationaux et internationaux qui sont sur place, bien, pas nécessairement sur place, mais qui présentent leurs œuvres à la Place Royale jusqu'à l'îlot Fleury, donc proche de la gare du Palais. Puis, cette année, il y a 5 parcours différents. Donc, le parcours mural à l'îlot Fleury, le parcours extérieur de la Place Royale jusqu'à peu près à l'espace 400, proche du port de Québec. Puis, il y a le passage intérieur, rétro et éphémère. Donc, beaucoup de diversité cette année.
Oui, puis c'est partout, hein, j'ai envie de dire. Il y en a un peu partout dans la ville. Fait que ça, on peut se prendre une très, très, très grande marche pour tout voir. Ou on peut même passer à côté sans nécessairement savoir que ça fait partie de passages insolites.
Exactement.
Toi, en fait, quel parcours as-tu fait pour commencer?
Oui, j'ai fait le parcours... Bien, j'ai commencé par le parcours mural, donc à l'îlot Fleury. Le parcours mural, c'est du street art. Donc, c'est vraiment des artistes de graffiti qui ont dessiné, bien, qui ont utilisé leur technique de graffiti pour couvrir les pilots, les piliers de l'autoroute Dufresne-Montmorency, donc sur l'avenue Charest. Donc, c'est super beau à aller voir, justement. C'est une grande diversité. Si je me souviens bien, c'est une dizaine d'artistes qui ont été, puis chacun des piliers complètement différents. Donc, il y a plusieurs types d'art, il y a plusieurs représentations, justement. Donc, ça, c'est à aller voir.
Oui, c'est un gros renouveau hein, pour l'îlot Fleury. C'est un lieu qui est déjà très connu là, pour ses belles murales, mais d'avoir un beau Exactement. Renouveau comme ça, un souffle nouveau, ça fait du bien. Là.
Oui, vraiment.
Puis est-ce qu'il y a un autre... Fait que t'as fait le parcours des murales.
Oui.
Est-ce que t'en as fait d'autres?
Oui, après, j'ai été faire le parcours extérieur. Donc, il s'étendait de la Place Royale jusqu'à... J'ai fait jusqu'à l'espace 400. Et moi, ça m'a pris 1h30 pour le faire, à peu près un 5 kilomètres de marche. Donc, c'est quand même une bonne marche, mais ça se fait super bien avoir les différentes œuvres.
Puis quel a été ton coup de cœur par rapport au parcours que tu as fait de Passage insolite?
J'ai 3 coups de cœur. Donc, j'ai premièrement Big Other de Pierre et Marie, un duo de la ville de Québec. Puis, en fait, vous les avez probablement déjà vus, puisque c'est les grands yeux en un peu de style caricature, dessin animé, qui sont placés sur 6 bâtiments. Donc, ce que j'aime particulièrement dans cette œuvre-là, c'est la signification. Donc, les artistes voulaient vraiment donner la vie au bâtiment. Donc, justement, il y en a des yeux sur le funiculaire, donc qui regardent le funiculaire et le château Frontenac. Donc, ça, c'est justement chacun des bâtiments a donné vie avec des yeux. Et il y a aussi une représentation des réseaux sociaux à travers ça. Donc, c'est comme si les réseaux sociaux nous surveillent partout. Donc, on se sent surveillé de partout, on se sent regardé de partout. Donc, quand on se promène sur Dalhousie, en face du Musée de la civilisation, il y a des yeux qui sont à la place des canotiers, puis des yeux qui sont sur le Musée de la civilisation. Donc, on se sent vraiment observé des deux côtés lorsqu'on marche là.
Puis est-ce que c'est cette observation et tout ça, est-ce que c'est quelque chose que toi t'as observé ou pendant le parcours on a accès à ces petits descriptifs là de d'informations?
Sur chacune des œuvres à côté, il y a une petite boîte qui jaune vraiment flash là, vous pouvez pas la manquer. Puis il y a toutes les descriptions, donc il y a le parcours, il y a aussi des informations sur les artistes, sur la signification, etc. C'est sûr qu'en me promenant, j'ai senti ce côté-là.
Tu te sentais observé, là.
Ouais, ouais. Je me sentais surtout, justement, en face du Musée de la civilisation, vu qu'il y en a de chacun des côtés, je me suis sentie observée. Mais c'est vraiment avec la signification que j'ai vraiment compris tout l'envers pour les réseaux sociaux, puis le donner vie au bâtiment. Donc, il y avait vraiment cet aspect-là.
Cool. Puis c'est le fait d'être observé que t'as aimé? C'est-tu le...
Oui. Bien, c'est justement le fait de la signification, le fait de, genre, on peut comprendre que, justement, on se sent observé. Il y a vraiment aussi... Oui, il y a des personnes qui peuvent seulement avoir des yeux, mais comme il y a tellement une autre dimension à ça aussi, donc il y a vraiment l'aspect, genre, dimension. Puis quand on se promène, on comprend, genre... on voit d'autres choses, puis quand on comprend, justement, je sais pas comment le dire, là, mais on comprend...
Ouais, c'est comme si tu ressentais déjà à prime abord de l'observation, tu sais, que tu te sentais observé, puis un peu peut-être le malaise, tu sais, qui vient avec. Puis après, quand tu regardais la descriptive de ce parcours-là, t'étais comme, OK, c'était normal que je me sente observé, là, c'était le but, là. Oui. Puis quel a été ton second coup de cœur?
Il y a Petit Québec de Anonymous. C'est un groupe de la Suède anonyme. Et eux, ils sont vraiment... En fait, ça représente leur nom de groupe, Anonymous. Donc, ils sont anonymes et ils font des petits bâtiments pour les souris et les rats de rue qu'ils vont imbriquer dans les bâtiments. Donc, dans le bas complètement des bâtiments, il faut vraiment se pencher en deux pour les voir. C'est une chance que les petits cubes étaient là pour savoir qu'il y avait quelque chose puisqu'ils étaient quand même bien cachés. Mais c'est vraiment des petits bâtiments. Donc, il y avait une station radio, une taverne, une agence de voyage et un refuge pour itinérants qui avait été imbriqué dans les murs à trois endroits dans le Vieux-Québec. Donc, il y avait vraiment justement cet aspect-là de on donne une vie aux souris un peu comme nous. Donc, quand on comprend justement cet aspect-là de c'est comme si les souris vivent un peu comme nous. Donc, ils ont aussi des petits bâtiments comme nous. Puis, la qualité est super belle. Là. Il y a vraiment un aspect 3D à l'intérieur des petits bâtiments. Là. Donc, quand on se penche, on voit vraiment qu'à l'intérieur, il se passe de quoi et tout est encastré dans le mur.
C'est vraiment comme une maquette?
Je pense que oui. Bien, c'est vraiment... On a seulement le devant de la boutique qui est apparente, puis quand on se penche, on voit que c'est comme s'il y avait percé dans le mur pour le reste.
Mmh.
Donc, c'est vraiment intéressant comment ils l'ont fait. Je me le demande, comment ils ont réussi à encastrer des petites maisons dans les murs du Vieux-Québec. Mais... C'est ça. C'est vraiment ludique, discret, c'est bien fait. Je me demande comment ils ont fait ça. Donc, j'ai trouvé ça super de ce côté-là.
Je trouve ça... On dirait que les petites souris, là, j'aime ça. Ça me rappelle le film là, de Le Dîner de con, là, où il fait des petites souris en maquette. Là. Puis tu sais, c'est ludique. Puis en même temps, vu que c'est comme petit, ben, tu sais, les enfants aussi peuvent y avoir accès, puis regarder, puis c'est un peu mystérieux.
Oui, vraiment. J'ai même vu des chiens qui se promenaient à côté, puis ils étaient de la hauteur des chiens. Donc, j'ai trouvé ça quand même drôle.
Pour tous. Puis là, tu me disais que tu avais trois coups de cœur. Donc, quel serait ton troisième coup de cœur des passages insolites?
Donc, c'est Nature radicale de Baptiste Desbonbourg qui vient de France. Donc, c'est un artiste qui a fait trois véhicules qui sont faits à partir de grosses pierres et ils ont seulement gardé, en fait, un volant et quelques morceaux de la carrosserie pour faire les véhicules. Donc, c'est vraiment des roches avec le volant et la carrosserie qui représentent une moto marine, un quatre roues et un véhicule tout terrain et sont placés en fait juste devant le traversier. Donc ça fait un lien avec la signification. Donc justement la signification de ces véhicules-là, c'est que les humains s'imposent à la nature et pour son propre plaisir et prennent justement la nature pour eux-mêmes. Donc ils transforment la nature pour les humains. Donc, encore une fois, la signification pour moi de cette œuvre, même si elle est magnifique, c'est vraiment ce qui prime dans l'œuvre.
Oui, puis c'est quelque chose de très... C'est quelque chose de réel, là, en
oui,
fait.
Oui,
je veux dire, je trouve ça vraiment astucieux qu'il ait mis cette œuvre-là devant les bateaux de croisière.
Exactement.
Ça fait aussi un petit clin d'œil aux touristes aussi qui arrivent sur les bateaux, puis que là, ils débarquent, ils voient ça, puis ils sont comme « Ah, OK! » On prend possession de la pauvre... du pauvre fleuve Saint-Laurent qui a peine à survivre. Hein, donc, puis... Tu as eu tes coups de cœur,
ouais.
Mais il y a sûrement des aspects que tu as peut-être moins appréciés, des parcours que tu as fait de passage insolite.
Oui. Bien, en fait, c'est juste... je les appelle un peu mes malchances parce que c'est trois œuvres que ça a moins bien à donner que je sois là à ce moment-là. Par exemple, le Tourne à vue de Camille Rajotte, une artiste de Québec. Elle a fait deux sièges sur une ligne droite, puis avec des pédales, ça tourne pour faire un 360 degrés. Donc, la signification est vraiment de pouvoir s'asseoir et voir une vue 360 au lieu de seulement s'asseoir et regarder devant nous. La seule affaire, c'est qu'elle avait été changée de place lorsque je suis arrivée. Donc, elle était placée entre des gros blocs de fleurs, ce qui fait qu'elle ne tournait plus. Elle était bloquée. Donc, j'ai pas pu vivre l'expérience en tant que telle. J'ai pas pu non plus,
vivre l'expérience comme la créatrice voulait que ça soit expérimenté, tu sais, ouais, fait que ça...
Ouais. Donc, ça fait comme partie de mes... Je les appelle mes malchanceuses. Donc, c'est ça. Il y avait celle-là. Ou sinon, il y avait « Au temps du rêve américain » de Jasmin Bilodeau. Donc, c'est une maison floue, un peu fantomatique, en tuyaux blancs 3D, qui est placée sur le port sur un des ports de l'espace 400. Donc, au fond complètement. Puis, quand je suis arrivée, les barrières étaient fermées. Donc, c'est comme si l'espace au complet était complètement fermé. Donc, j'étais à plusieurs mètres de l'œuvre. Et puisque c'est une œuvre qui est faite en flou, donc c'est fait pour que, justement, on puisse pas bien voir l'œuvre en général, être à plusieurs mètres de distance, c'était encore plus difficile pour voir l'œuvre en tant que telle. Donc, encore une fois, c'était peut-être un mauvais moment... que j'étais là pour voir cette œuvre-là, donc ça fait partie de mes petites malchanceuses. Mais la signification est tout de même très belle, puisque c'est une maison en bois rond, donc ça fait une référence aux origines des colons. Puis la maison est un peu flouée et brouillée, puisque la mémoire, elle, se brouille et se mélange au fil du temps. Donc c'est ça.
Puis... Toi, t'es une habituée de l'art de rue, des arts visuels. Oui. Étais-tu allée l'année dernière à Passage Insolite?
Oui, j'étais allée l'année passée.
Puis, ça serait quoi ta perspective entre l'édition 2023 et l'édition 2022 de Passage Insolite?
Côté des œuvres, j'ai trouvé que l'an passé, c'était très grandiose. Les œuvres étaient grandes, étaient d'envergure. On fait référence aux vestes de sauvetage de Huawei qui étaient devant le traversier. C'était très grand. Il y avait aussi un serpentin aussi qui était toute la hauteur d'un mur au complet. Donc, plusieurs œuvres qui étaient très grandes puis d'envergure. Et cette année, j'ai trouvé que c'était tout en plus petit format et il y avait moins d'œuvres un peu. Puisque plusieurs œuvres étaient des mêmes artistes, mais en fait, c'était plusieurs variantes de l'œuvre qui étaient placées. Donc, il y avait un peu moins de diversité de ce côté-là. Mais par contre, côté diversité des significations, j'ai trouvé ça super intéressant, technique des matériaux et de la signification. Donc, ça, j'ai vraiment trouvé ça génial de ce côté-là. Mais c'est sûr que c'était des plus petits formats cette année que j'ai trouvé par rapport à l'année passée. Puis, j'avais aimé l'effet grandiose de l'année passée.
Je comprends. Comme d'avoir un peu... D'avoir... que ce soit plus... comment je pourrais dire? C'était plus...
L'an passé, j'étais émerveillée devant les œuvres. Là, j'étais plus... Ah, OK. C'est plus petit. Mais okay. Tu sais, la signification était là, puis j'aimais ça quand même faire le tour. Mais j'étais moins... Wow!
Ouais, je comprends. Je comprends. Puis comme tu disais en début de chronique, c'est bientôt la fermeture des Passages Insolites. Ça va avoir lieu le 7 octobre. Il y a un événement spécial aussi qui se passe pour la fermeture des Passages Insolites édition 2023.
Effectivement. Donc, le 7 octobre de 18h à 22h, notez ça à vos agendas. C'est gratuit. Donc, c'est à la Place Royale dans le Vieux-Québec. C'est le dévoilement de l'œuvre Littérature versus Trafic d'un groupe dont je m'excuse si je mal prononce le nom, Les Interruptus. Et c'est plus de 11 000 livres étalés et illuminés sous la forme d'une rivière, donc à la Place Royale, un lieu hautement significatif justement pour la ville de Québec. Donc, c'est à voir absolument.
Ah, puis c'est intéressant parce que c'est un collectif de littéraire qui est complètement anonyme, donc on ne sait pas qui, quoi, comment. Vont-ils être là sur place? Vont-ils pas être là? Personne ne va le savoir.
Exactement.
Mais merci, Élise, pour cette merveilleuse première chronique. Nous avons parlé de ton impression des passages insolites. Pour les artistes en art visuel qui nous écoutent, c'est aussi le temps de proposer vos œuvres aussi pour l'édition 2023. Je me rappelle plus de la date limite, mais allez voir sur le site web de Passages insolites et vous allez avoir toutes les informations. Et je remercie encore Élise pour ta belle chronique super pertinente. J'espère te revoir très bientôt pour parler plus d'art visuel.
Mais oui, merci à vous.
Et on continue en musique. En fait, à l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les nouveautés qui sont sorties vendredi dernier. Il y en a eu pas mal de sorties d'albums le 22 septembre dernier. Et c'est l'album de Le Couleur qui s'appelle Comme dans un penthouse, que j'ai envie de commencer l'émission. C'est la chanson Sentiment nouveau que vous écoutez à Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
Thank you.
venez d'entendre la chanson Sentiment Nouveau du groupe Le Couleur. Vous écoutez toujours Chérie J'arrive, votre émission culturelle alternative favorite sur les ondes de Chiz 94.3. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, sachez que Le Couleur lancera en fait son album comme dans un penthouse le 20 octobre prochain au Pantoum. Pantoum, qui est une salle de spectacle qui se situe dans le quartier Saint-Sauveur, très près du quartier Saint-Roch dans la ville de Québec. Ça s'annonce très plaisant comme soirée. Les billets sont déjà en vente si vous voulez être sûr d'avoir une place. On continue avec d'autres, une autre nouveauté musicale. C'est avec c'est Belle Grand Fille qui vient tout juste de sortir son deuxième album qui s'appelle Les Loups dorment tranquilles. Et Les Loups dorment tranquilles, en fait, l'artiste a voulu dévoiler son côté clair-obscur. C'est avec le premier extrait qu'elle a sorti, Comment on continue, que je souhaite continuer en musique. Vous écoutez Comment on continue de Belle Grand Fille sur les ondes de Chiz 94.3. D'entendre la douce voix de Belle Grand Fille avec l'extrait Comment on continue. Premier extrait qui est sorti de son deuxième album qui s'appelle Les Loups dorment tranquilles. Je vous encourage aussi à aller voir le vidéoclip de cet extrait, de cette chanson « Comment on continue ». C'est vraiment un doux vidéoclip qui propose une immersion poétique dans l'univers de l'album. C'est un peu un mélange, en fait, de collage et de... Le graphisme est super, super intéressant. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on voit vraiment les lyriques, d'où l'immersion poétique, ce qui est aussi parfait pour les soirées karaoké. J'adore quand les artistes de Québec font des vidéoclips, qu'on peut voir aussi les paroles. Comme ça, on peut les utiliser dans nos soirées karaoké, gang. Ça, c'est le fun, en maudit. On continue en nouveauté, les nouveautés du vendredi 22 septembre. Et c'est avec un coup de cœur que j'ai envie de continuer l'émission. C'est l'artiste Sacha Kay qui a sorti son premier album, comme je vous l'ai mentionné précédemment, le 22 septembre dernier. L'album s'appelle Spin et aborde les thèmes de la survie. Et Sacha Kay, c'est une autrice, compositrice montréalaise. Et c'est avec la chanson Comédie qu'on continue en musique. Vous écoutez Chérie, j'arrive sur le nom de Chiz 94.3.
Thank you. Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Vous recherchez une émission qui donne la parole au peuple, travaille pour les intérêts du peuple et aborde les problèmes quotidiens de la vie? Ne cherchez plus. La Tribune pour le peuple, l'espace des libertés pour s'exprimer, votre émission incontournable animée par Jean-Luc Oumba le Bantou, chaque mercredi à partir des 14h sur Cheese 94.3.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Passe d'abord, c'est bien fait! Le tir et le but!
Les Remparts de Québec visitent l'Armada de Blainville-Boisbriand ce vendredi 29 septembre à 19h30. Rejoignez Rick Loutier sur nos ondes dès 19h15 pour l'avant-match. Remparts Armada, vendredi à 19h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Écoutez maintenant LSDJ 7 présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. L'émission d'aujourd'hui est commanditée par Maes. Maes, un chanteur français qui est au top hein, de ce temps-ci en France, qui sera en spectacle le 20 octobre prochain à 20h au Théâtre Capitole. Il reste des billets. Et si vous écoutez souvent Chérie, j'arrive, nous aurons d'autres paires de billets à faire tirer au cours de la semaine, dont que restez à l'écoute. Et si vous pouvez plus d'attendre des concours, ben vous pouvez aussi acheter des billets qui sont disponibles. Vous écrivez Maes 20 octobre. Ils sont disponibles sur Ticketmaster. Et on continue encore en nouveauté. Hein, les nouveautés du vendredi qui sont le mardi. Les nouveautés du 22 septembre. Et c'est avec un groupe que je vous ai déjà parlé à l'émission. C'est du groupe Mayfly qui viennent tout juste de sortir leur deuxième EP. Qui était fort attendu. Je vous ai déjà parlé de Mayfly il y a quelques semaines déjà, puisqu'il faisait partie de la soirée plurielle de la fête arc-en-ciel au début septembre. Je vous avais présenté la chanson FU. Mais aujourd'hui, hein, on fait changement, on met une autre chanson et c'est avec le titre Passenger Seat qu'on continue avec Mayfly et restez à l'écoute. On écoute de la bonne musique, mais on a aussi d'autres chroniqueuses qui viennent à l'émission. Je rappelle qu'à 16h45, nous aurons en ondes avec nous Amy pour parler de films queer. Et à 17h, nous aurons Maxime Demeul pour nous parler de nouveautés littéraires. Donc, vous écoutez Mayfly, Passenger Seat, c'est donc de Chiz 94.3.
Seat. yourself. You call the shots, couldn't wait. Be cautious of the path you take. If I let go, will you drive me home safe? Drive us home safe. Drive me home safe. Drive us home safe.
Vous venez d'entendre Passenger Seat de Mayfly. Vous écoutez Chérie, j'arrive, votre émission culturelle alternative sur les ondes de Chiz 94.3. Si vous avez aimé l'univers pop de Mayfly, vous allez vraiment apprécier la prochaine chanson et le prochain groupe que je vais vous faire découvrir dans les nouveautés du 22 septembre. C'est le groupe Cosmophone qui vient tout juste de sortir son premier album qui s'appelle Feu toi, feu moi. Cosmophone avait sorti plus de 3 singles. Ça avait déjà sorti 3 singles en prévision de l'album et ça avait été vraiment bien accueilli. Les gens avaient très hâte de voir l'album et vous ne serez pas déçus si vous aimez l'univers du pop expérimental. C'est avec l'extrait Après la pluie, un des singles qui était sorti avant l'album, qu'on continue la musique avec Cosmophone sur les ondes de Chiz 94.3.
L'orage ne gronde plus depuis peu, mais mon cœur touche les éclairs. En plein naufrage, je
de plonger, de m'éloigner.
venez d'entendre Après la pluie du groupe Cosmophone. Et on continue avec les nouveautés musicales du 22 septembre. Nouveautés du vendredi, le mardi. Et c'est avec une artiste que, drôlement, je ne connaissais pas. Moi, vous allez comprendre que j'aime beaucoup l'univers soul, R&B, jazz. Et c'est l'artiste Dominique Fils-Aimé qui a sorti, en fait, le troisième album de sa trilogie qui s'appelle Our Roots Run Deep. C'est Dominique Fils-Aimé, c'est une compositrice-interprète de Montréal qui, en fait, sa trilogie d'albums, c'est super intéressant. Ça parle, en fait, ça met en lumière l'histoire de la musique africo-américaine. Sa musique reflète les influences blues et jazz. Et si vous aimez ce que vous allez entendre, sachez que Dominique Fils-Aimé sera à Québec le 2 février au Grand Théâtre de Québec. Et restez à l'écoute, parce que après la chanson, nous avons avec nous Amy pour parler du dernier film queer qu'elle a vu. Donc, vous écoutez Feeling Like a Plant de Dominique Fils-Aimé sur les ondes de Shiz 94.3. Dominique Fils-Aimé avec le titre Feeling Like a Plant. Vous écoutez Chérie, j'arrive sur la zone de Shiz 94.3. Et pendant que la chanson jouait, j'ai fait une petite recherche. J'étais comme, ah, mais semble ce nom-là, même si j'avais jamais entendu, ça semble la musique me dit quelque chose. Et oui, J'ai trouvé le lien. C'est Dominique Fils-Aimé qui a fait la musique derrière le film Le mythe de la femme noire, un long métrage documentaire qui enquête sur l'image des femmes noires dans la société. Et c'est un film documentaire que j'avais déjà parlé dans les chroniques Documatrix avec mon acolyte Audrey Paquette. Alors, un beau lien ici à faire. Et ça tombe-tu bien qu'on parle de film? Parce qu'avec moi en studio, j'ai Amy pour nous parler d'un film que tu as vu récemment. Salut Amy.
Allô Noé. Que j'ai vu même, que j'ai revu. Je suis allée voir deux fois au cinéma. C'est pas full dans mon habitude, mais c'est quand même bon signe. Je suis allée avec deux groupes d'amis distincts. Donc c'est le film Bottoms, qui est en fait le deuxième film de la réalisatrice Emma Seligman, qui avait fait, et je pense qu'il était sur Netflix, qui avait fait Shiva Baby, qui était une espèce de film, en fait, bon, qui met en... je pense que le film durait moins d'une heure, là, si je me trompe pas. Une étudiante qui avait un sugar daddy, qui se ramasse dans une Shiva, qui est comme un rituel juif, bon, qui est en lien avec la mort d'un proche. Puis bon, elle se rend compte à ce moment-là que l'homme qui est son sugar daddy est en fait un père de famille marié parce qu'il vient. Puis c'est... en tout cas, je pense que Emma Seligman, c'est une réalisatrice à surveiller. Elle est extrêmement bonne pour mettre en scène le malaise. Une tension vraiment parfaite entre « je me sens pas très bien », j'ai envie de me cogner la tête sur les murs et c'est très, très, très drôle. Puis, il y a, bon, une des actrices, en fait, l'actrice principale de Shiva Baby, qui est Rachel Sednott, qui est aussi tête d'affiche dans le film Bottoms.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est un beau lien à faire.
Oui, on voit que. C'est la même réalisatrice, mais à travail, j'ai l'impression que, bon, c'est quelqu'un qui semble aimer travailler avec les mêmes comédiennes, même que Rachel Sednott a participé au scénario avec la réalisatrice. C'est quelque chose que je trouve cool, là, d'impliquer les acteurs dans la production. C'est quelque chose qu'on a vu aussi dans les films de Pearl Marianne, qui est comme une série de films produits par A24, en tout cas, autre histoire. puis Bottoms, c'est une comédie dramatique, trash, ado, jeune adulte, très, très queer. C'est un film, en fait, bon, petit synopsis, on a deux amis de secondaire, PJ et Josie, qui veulent, bon, qui sont ouvertement lesbiennes et qui veulent perdre leur virginité pendant cette année-là. Puis leur école est excessivement satirique, là, au niveau de... Bon, tout est autour de l'équipe de football, mais tu sais, c'est très gros, là. Les traits sont très, très grossiers. C'est très... Tu sais, par exemple, l'équipe de football a une table spéciale qui représente un peu le dernier repas de Jésus. C'est un peu l'ambiance qu'on a. Puis, bon, eux, c'est les lesbiennes de l'école, tout le monde en parle, tout le monde rit un peu d'elles, mais c'est quand même trash, l'humour est assez noir.
Tu vois qu'ils sont que les deux lesbiennes sont full stigmatisées.
Oui, ils sont full stigmatisées,
film,
mais vraiment que... d'un point de vue, c'est comme, d'un point de vue, c'est super humoristique. Là, je veux dire, ils se font appeler, par exemple, par le proviseur, « Ah, les deux lesbiennes laides, venez à mon bureau. » Fait que c'est vraiment des traits qui sont très, très gros.
Oh, shit,
puis ils décident, en fait, de se partir à un fight club, un club d'autodéfense, en fait, davantage, où le but annoncé, en fait, c'est de se faire un endroit sororal, puis aussi de se préparer à affronter l'équipe de football adverse qui intimide les femmes et qui les prend comme victimes. Mais en fait, le vrai prétexte, c'est de pouvoir se pogner des filles, parce qu'en se situant dessus, bien évidemment, c'est très érotique. Et ça invente toute une histoire autour du fait qu'ils sont allés en centre pour... en centre correctionnel pour adolescents. Bref, ça devient une espèce de film de... il parle de David Fincher, là, tu le sens que leur référence est un peu à ça, mais ça n'a rien à voir du tout avec l'univers de David Fincher. On est beaucoup plus dans le teen movie satirique qui vire un peu en film de slasher, là, donc... Les premiers 10 minutes, t'es comme, ah, c'est un film du genre Booksmart. Fait que, tu sais, une espèce de teen movie qui se réapproprie les codes, qui essaie de mettre de l'avant d'autres modèles féminins. Finalement, tu te rends compte que c'est une parodie de tous ces films-là, mais en même temps, il y a aussi un côté hommage. On n'est pas juste dans la moquerie. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un véritable amour des films d'adolescents, des coming of age, qui est fait. Mais tous ces traits-là sont grossis à outrance. Notamment, c'est Charlie XCX qui a fait la musique du film. Fait que c'est très, très pop, très gros. Là, puis on a beaucoup de plans parodiques, notamment. Il y a Complicated d'Avril Lavigne qui part pendant que pendant que l'une des protagonistes marche sur le chemin de fer en bottant une canisse. Total Eclipse of the Heart, des scènes parodiques de revenge collective de femmes contre un homme. Fait que je pense que au final la sororité est quand même beaucoup exploitée, mais c'est ça. Fait que c'est quelque chose que quitte à quand même très avoir entre amis, très drôle. Puis je dirais que c'est vraiment cette réalisatrice-là. Quand je dis qu'elle est prometteuse, c'est que non seulement au niveau de la narration, elle est capable de faire quelque chose d'assez subversif, au sens où elle s'approprie des codes, les déjoue, mais les embrasse en même temps. Mais au niveau formel, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Je pense qu'elle utilise notamment beaucoup de types de plans qui appartiennent à d'autres genres, notamment le film d'action, les ralentis, les flous, les focus qui sont différents. Puis elle les met dans des genres, justement. Bon, là, on parle du teen movie, puis dont je pense que la sexualité va être des thèmes qu'elle va continuer d'aborder. Aussi, beaucoup d'éléments liés au judaïsme. C'est sûr qu'on est dans une culture beaucoup très très américaine.
C'est une production américaine.
Là, oui, ça. Oui, puis c'est très américain, très bon contenu américain là. très très américain.
Mais tu sais, tout ce qui est teen movie, on dirait que j'ai de la misère à pas voir un teen movie qui est pas américain. On dirait que ça vient avec.
Oui, oui. je sais pas s'il existe d'autres modèles, mais en effet, en tout cas, nous ce qu'on consommait. Comme contenu, tu sais, pour les gens qui ont consommé des Mean Girls, des She's the Man, c'est un film qui s'inscrit, je pense, dans cette lignée-là, tout en voulant beaucoup s'affranchir.
Puis je me demandais, tu sais, tantôt, tu disais, pour ceux qui viennent de nous, qui nous écoutent, on parle du film Bottom de la réalisatrice.
Emma Seligman, je ne suis pas certaine de la prononciation.
Emma Seligman, mais oui. On la salue. Mais je me demandais, tu parlais des caractères un peu grossiers.
Oui.
Est-ce que tu trouves que ça rajoute au film ou que c'est too much?
Comme c'est volontaire, moi, ça me fait beaucoup rire.
Okay, je comprends.
Après, c'est un film qui n'est pas très intellectuel, mais ça ne se prétend pas non plus l'être, puis moi, c'est ce que j'aime. Après, je pense que ça peut autant parler justement à des fans de tes movies qu'à des... Je déteste l'expression cinéphile, mais tu comprends ce que je veux dire, qui vont voir davantage les codes qui sont déjoués un petit peu ou vraiment grossis pour s'en moquer tout en les célébrant. Puis, tu sais, même dans l'affiche du film, là, on voit le côté humoristique de l'équipe de football, du caractère très homoérotique aussi qu'il y a dans l'équipe de football. Puis, dans ces relations-là qu'on peut avoir aux équipes de sport masculin. On pourrait faire un parallèle avec l'université, mais...
Puis qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de le réécouter deux fois puis de le faire découvrir à des amis et maintenant à nos auditeureuses, auditrices,
oui. D'abord, le film est très court, 1h26. C'est un format quand même... c'est un long métrage, mais très, très court. Puis j'avais envie de revoir parce que souvent, tu t'es surtout absorbé par l'histoire là, dans un premier visionnement de film, mais j'avais quand même l'impression d'avoir remarqué des éléments formels, tu sais, des plans le fun, beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan. Fait que j'avais vraiment envie d'avoir une deuxième écoute où j'allais pouvoir me concentrer sur ces éléments-là. Puis bon, le film est disponible est au clap en ce moment en version originale en anglais. Il n'y a pas de sous-titres, si je ne me trompe pas, mais tu sais, comme francophone, même si j'ai un anglais qui est correct, un deuxième visionnement pour moi pour aller de soi, vu que c'est un film qui aborde aussi des thématiques qui me sont chères. Là. Fait que j'avais envie de le revoir. Puis l'ambiance de la salle aussi était le fun. C'est des jeunes queer, on a du 15-35 ans, puis qui vont là, puis qui ont leur petite soirée entre amis. Voilà.
Donc, on recommande.
On recommande, bon, absolument. Il devrait partir bientôt du clap. Donc, allez-y très bientôt. En ce moment, il passe à 21h. Toute la semaine, je pense, encore. Mais d'après moi, ce sera la dernière semaine. Mais après, je suis pas mal certaine qu'il va être disponible sur beaucoup de plateformes.
Mm-hmm. Donc, si vous avez envie d'un film queer, comédie, satirique...
Même horrifique à certains... Elle n'est pas effrayante, mais disons qu'on... Il y a des doutes qui sont tués, là. Oui, voilà. C'est un punch.
C'est le punch.
Mais c'est moi, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça culmine, on culmine. Oui, donc une réalisatrice à surveiller. Rachel Sennott, qui est l'actrice principale, une actrice aussi à surveiller. Donc voilà, je conseille aussi Shiva Baby, qui est sur Netflix en ce moment, qui s'écoute très bien. Un mardi soir. Voilà.
Merci pour cette recommandation cinématographique, Amy. Donc, c'était du film Bottom qu'on vient de parler. Bottom qui est au cinéma jusqu'à très, très bientôt. Hein, au clap le plus près de chez vous. Si vous avez envie d'un late night, c'est Bottom qu'il faut aller voir.
Absolument.
Merci, Amy. Et j'ai très hâte de reparler de films queer à tes côtés.
Merci à toi.
Et c'est sur cette fin de chronique que nous partons en courte pause publicitaire. Et restez à l'affût, restez à l'écoute, car après la pause, nous aurons avec nous Maxime Desmeules, notre chroniqueuse littéraire, pour nous parler des derniers livres qu'elle a lus. Vous écoutez Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Nemo, on a une nouvelle mission.
Je suis prêt, Émilie.
Ensemble, on doit sauver le Québec avec...
Écoute locale! Garde à mon arme secrète, la playlist. 100% nouveautés de la ville de Québec, un lundi sur deux, 14h.
L'autre lundi sur deux, 14h, je frappe fort avec les entrevues et mes questions qui tuent.
Écoute locale.
Les entrevues.
Écoute locale. La playlist.
Lundi, 14h. On sauve la musique.
À Chiz 94.3.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Tous les vendredis à 13h30 sur Chiz 94,3 FM.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmukeosits. Anmukeosits, tous les dimanches à midi sur Chiz 94.3.
Ce n'était rien qu'un mirage.
en toi de l'été dernier. Il faisait chaud, nous étions
Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Et vous venez tout juste d'entendre le titre « La Vallée » de l'artiste Vincent Cougny. Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom, car Vincent est le leader du groupe rock montréalais Double Date with Death. Mais Vincent avait envie d'autres choses, puis a décidé de partir à l'aventure en solitaire pour créer des morceaux qui sont beaucoup plus personnels. Il travaille avec d'autres personnes que vous connaissez de d'autres groupes. Je pense à Patrick Gosselin de Le Couleur, que je vous ai parlé un peu plus tôt en début d'émission, à la basse, et Guillaume Chiasson de Bon Enfant à l'enregistrement. Vincent Cougny, dans son univers, nous propose une aventure musicale située quelque part entre les années 1968 et 1970. Vraiment, un super bel album, des beaux singles qui ont sorti juste avant l'apparition de l'album. L'album qui s'appelle 8h12 PM, le premier album de l'artiste Vincent Cougny. On reste à l'affût. Mais, assez parlé de musique pour le moment. Et parlons littérature avec ma chère Maxime Desmeules. Bonjour, bonjour.
Bonjour, Noémie, ça va bien?
Oui, ça va très, très bien. Je suis toujours heureuse de te recevoir. Je suis toujours heureuse de te recevoir pour parler littérature. Et là, on t'a pas entendu parce que j'avais pas ouvert le bon micro.
Mais
là,
me voilà sur les ondes.
Allô, Noémie. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, Max, tu vas nous parler de petites nouveautés. Et là, on s'en va dans plein de styles littéraires différents.
Oui.
On passe par le livre pour enfants, par l'album littéraire, par un essai. On s'en va dans plein de perspectives. Et c'est avec le livre « Résister et fleurir » de Jean-Félix Chénier que tu vas commencer cette douce chronique.
C'est bien cela. Donc, encore en mode rentrée littéraire, disons, pour cette chronique aujourd'hui. C'est avec un mélange... Enfin,
une rencontre entre l'essai et la BD que je veux ouvrir aujourd'hui. Résister et fleurir, Noémie, tu l'as dit. Le texte est de Jean-Félix Chénier qui enseigne les sciences politiques depuis plus de 15 ans au collégial. Et c'est magnifiquement illustré, j'aurai la chance d'y revenir, par Joachim Bélanger, qui est un artiste peintre multidisciplinaire. Alors, c'est le plus récent titre, donc, chez Éco-Société, où il est question de communauté, de lutte et de préservation du territoire, des thèmes qui sont tout à fait dans l'air du temps.
Oh oui, c'est d'actualité, hein, je veux dire, c'est important. Puis c'est, ça me semble être un livre aussi, une belle ode à la jeunesse, hein, ce livre de ce que j'en ai
Tout à
lu.
Fait. Et c'est d'ailleurs, bon... quand même au cœur de l'histoire. Je vous le disais, Chénier enseigne au collégial et dans son cours qui traite de dystopie et d'utopie, il va se servir d'une situation qui s'est déroulée à Hochelaga, donc d'une mobilisation citoyenne contre le projet Raymond Logistique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça ferait de ce terminal de transbordeur le plus grand en Amérique du Nord. Et bon, ben ça ne plaît pas aux citoyens du quartier qui sont pas... qui n'ont pas trop d'espace vert, on va le dire comme ça. Et donc, il illustre son cours tout en parlant de comment les gens se sont rassemblés pour créer de la communauté et voir comment ils pouvaient occuper, préserver, militer pour garder cet espace-là pour eux. La facture visuelle est remarquable.
C'est vrai. C'est quelque chose que j'ai qui m'a aussi attiré l'œil. C'est quand même un gros... un beau format de livre.
Oui, puis la couverture souple pour la BD, on dirait qu'on a accès à un très, très beau magazine. J'ai presque l'impression que c'est un reportage journalistique sous forme de BD. Là. La forme est vraiment fun pour ça. Les aquarelles sont éclatantes et assez vastes aussi. Il n'y a pas de marge. Puis il y a des aquarelles qui se fondent l'une dans l'autre. Ça m'a beaucoup plu aussi à la lecture.
C'est quelque chose que je me demandais. J'étais comme, quel type de comment ils ont illustré? Parce que c'est tellement, c'est tellement fluide là, comme illustration. C'est le mot que j'utiliserais.
Ouais.
Puis je me demandais vraiment c'était quoi le médium. Mais l'aquarelle, ça me semble...
Oui, puis il y a des portions qui se rapprochent même du collage. C'est pas sans rappeler le zine, puis c'est un peu DIY quand il y a des extraits qui sont tapés puis recollés par-dessus les aquarelles. Ça aussi, j'ai bien apprécié ce mélange-là. Dans la BD, les notes, les références sont très, très riches. Probablement parce que ce livre-là va être réutilisé dans le cours de sciences politiques. puis... Je veux dire, la maison d'édition Éco-Société s'en cache pas, c'est présenté comme un véritable cours de sciences politiques appliquées. C'est peut-être là où j'ai une première épine dans ma lecture, c'est que le premier chapitre était plus aride, plus scolaire, théorique.
Moins accessible, peut-être. Mm-hmm.
Ah, je me suis sentie loin de mon cégep, je me souvenais pas de grand-chose. Mais les auteurs, les textes, les grands textes sont très, très nombreux à être convoqués. Et puis, c'est ça, les notes, les références sont vraiment riches, donc c'est sûr que ça peut servir d'assise pour un cours. Après, bon, au chapitre 2, ça s'adoucit tout ça. Et je trouve que ça fait une belle place, tu le mentionnais en début, Noémie, à la jeunesse, à la réflexion des étudiants, des étudiantes. On a accès au dialogue entre les élèves et le prof. Bon, à travers Zoom, là, on se replace au début de la pandémie. Il y a des extraits de travaux d'étudiants aussi. Puis, je trouve que Résister et fleurir fait un bel hommage aux militants puis aux militantes. Mmh. Ils ont la paroles. Il y a plusieurs des illustrations qui sont inspirées de photographies des luttes qui ont été menées pour préserver le Boisé Steinberg. Donc tout ça, c'est un livre qui invite à repenser nos communs, je trouve. Puis les contributions sont vraiment bien reconnues.
Puis tu disais que le premier chapitre était peut-être un peu plus théorique. Est-ce que tu as senti cette lourdeur théorique tout au long de ta lecture? Ou...
Non, pas du tout. Puis on va entrer beaucoup vers... justement, comment repenser nos communs? Qu'est-ce qu'une utopie? Comment on pourrait la réaliser au quotidien? C'est un rappel qu'une utopie, c'est pas un but, c'est plutôt, comment dire, un chemin, tu sais, c'est une destination. Puis que c'est ça qui compte de toute part de rien. Donc, de commencer par un petit quelque chose dans notre communauté, ça peut donner quelque chose de plus grand, quoi. Puis, deuxième petite épine, j'aurais apprécié que ce soit épicène tout le long. Dans les travaux d'étudiants, on l'a, le point E, je me suis sentie interpellée. Mais quand c'est le prof qui parle, il l'a pas, cette inclusion-là dans le langage. Donc, c'est mon petit bémol pour résister et fleurir. Mais autrement, je trouve que c'est un livre qui est là pour développer notre sens du possible. Puis, comme il y en est souvent question, ben c'est un livre jardin pour créer le dialogue.
Mmh. Un livre qui a de l'espoir aussi à l'intérieur.
Ah oui, tout à fait. Cool. Puis, il faut dire que l'histoire de la lutte dans le livre... ben, se poursuit pas jusqu'à aujourd'hui, là, parce que là, on le sait, des conteneurs, il y en a sur le terrain. Mm-hmm. D'en résister, fleurir, là, l'histoire, à un moment donné, il faut bien que ça parte à l'impression. Là. Ouais. Donc, l'histoire, c'est très porteur d'espoir, oui, en effet.
Donc, on recommande? Est-ce que c'est recommandé?
On recommande!
On recommande « Résister et fleurir » de Jean-Félix Chenier à l'écriture et
Joachim Bélanger aux illustrations.
Yes, sir! Mm-hmm. Quelle serait ta deuxième recommandation? On s'en va dans un livre pour enfants. Donc, oui. Pour les auditeurs, auditrices qui sont à l'écoute et qui ont les enfants, ça peut... Mm-hmm. C'est intéressant.
Et même celles qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont des fioles, par exemple,
oui,
comme moi.
Vrai.
Un loup dans la main, c'est l'album que j'aimerais présenter. Texte d'Annie Cloutier et illustration de Fanny Achache. C'est chez Station T, dis-je, en faisant un exercice de diction. Ce qui est au cœur d'un loup dans la main, c'est un enfant qui a du mal à s'endormir, donc qui a peur des monstres sous son lit. Et son père va lui rappeler qu'il y a un petit loup accompagnateur, protecteur pour lui. Donc, il y a cette force-là en lui de vaincre sa peur. Ils vont partir à l'aventure ensemble, père et enfant, main dans la main, pour affronter leur peur. Je trouve que c'est l'imagination puis l'amitié qui sont vraiment au cœur de cet album-là. C'est ce qui m'a plu beaucoup. Et aussi le fait que c'est un livre qui donne des outils pour les enfants qui ont peur, des outils à l'intérieur de soi. C'est pas juste un livre sur la peur, c'est aussi comment je peux la surmonter. Et le petit outil, Noémie, il est dans la main de l'enfant.
Hello.
On fait des ombres chinoises et c'est vraiment un loup dans la main qui va protéger l'enfant pour lui permettre de passer
Adorable.
Une belle nuit, faire de beaux rêves.
J'aime que tu aies dit des solutions qui sont... Comment tu as dit ça? Des solutions...
Je pense que je vais dire en nous, ouais.
En nous, ouais. Mm-hmm. Puis de pas aller chercher à l'extérieur, nos solutions pour avoir peur, ben ils sont pas nécessairement à l'extérieur de nous. Ça peut être super simple,
oui.
Comme le petit loup qu'on crée avec nos mains,
exact.
Pour se rappeler qu'on est toujours accompagné dans le noir. Je trouve ça intéressant parce que souvent le loup est comme catégorisé comme un être effrayant. Hein, mm-hmm. Les gens ont peur des loups. On a dans la culture populaire, c'est comme ça qu'on les interprète. Fait que là, qu'on se réapproprie l'archétype du loup pour qu'il soit réconfortant, je trouve que c'est une très belle ode à cet animal.
Très juste observation de ta part. C'est vrai qu'il y a un renversement de la figure du loup dans un loup dans la main. Puis, ben, ça amène. Il y a un côté très ludique. Là, on peut faire des ombres chinoises multiples, pas que celle du loup, mais bref, ça rassure. Puis, on n'a pas affronté nos peurs seules. T'sais, l'enfant est accompagné de son loup, de son père. Puis, vraiment, là, comme tu le dis, ben, il y a une force qui est dans l'enfant, qui là, s'incarne dans la figure du loup dans la main.
Mmh. Alors, puis, est-ce que c'est une lecture que tu as fait seule? Est-ce que tu as fait la lecture à ton. Aux enfants de ta vie.
Je l'ai fait à voix haute, donc pas encore avec l'enfant de ma vie, mais j'ai bien l'intention de lui lire, oui, avant,
wow.
Dans le rituel dodo.
Et par rapport aux illustrations, ça a été quoi ton point de vue par rapport à tout ce qui est graphique dans ce livre?
Mm-hmm. Illustration assez, plutôt sobre, où la présence des ombres est vraiment bien là, dans pratiquement chacune des pages. Donc ça, même avant que ce soit annoncé qu'on va... disons, travailler les ombres chinoises comme solution, on le sent déjà. Quand on lit une deuxième fois, on est comme, ah ben oui, j'aurais dû... J'avais des petits indices, disons. Puis ça devient quand même assez lumineux, là, notamment vers la fin, avec les montgolfières. Donc, il y a de plus en plus de couleurs dans cet album.
Ouais, c'est vrai, hein? C'est vraiment... C'est un bel album, comme tu dis, là. C'est le format est grand. Donc, pour les enfants... Les enfants et les grands-enfants, mm-hmm. aussi, ben c'est super accessible. Tu vois que l'image prend plus le devant, hein, que, mm-hmm. que le texte,
ouais.
Ce que les enfants apprécient grandement, généralement.
Oui, puis d'un point de vue très didactique, ben ça aide que le texte soit uniforme, bien,
ouais.
droit, présenté de la même manière partout. Il y a des albums où le texte est parfois agrandi ou coloré, ou puis là, je pense aux enfants qui ont des troubles de lecture ou d'écriture, puis là, ça peut être une lecture plus difficile pour eux, mais dans ce cas-ci, un loup dans la main... accessible pour tout petit lecteur-lectrice.
Et quelle serait ta troisième recommandation littéraire du jour? C'est avec une autrice qu'on aime bien, Chérie J'arrive, Martine Delvaux. Son dernier essai, ça aurait pu être un film.
Oui, Delvaux, romancière, essayiste, professeur qui se passe de présentation. C'est une figure féministe importante ici au Québec, au Canada. J'avais beaucoup aimé Pompière et pyromane, son livre sur le Boys Club aussi. Mm-hmm. Pompière et pyromane qui va être porté sur scène au Trident en novembre ici à Québec. Oui. Et puis là, cette fois, chez Heliotrope, Martine Delvaux s'est intéressée à la figure d'Otis Jeffcoat. Faut savoir que c'est un producteur qui lui a proposé d'écrire un scénario sur cette peintre-là qui a été très près de Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle, donc en relation étroite avec ces deux autres figures de l'art. Puis, question de la mettre en lumière vraiment, elle, de partir à sa recherche. Il y a un grand travail d'enquête derrière ce livre-là. Parce que Otis Jeffcoat a souvent été présenté comme la gardienne des chiens ou, la maîtresse, tu sais, de Jean-Paul Riopelle, plutôt que comme une artiste en soi, une femme qui était super appréciée, bien qu'effacée, en ce sens où elle était un peu fuyante, discrète.
Bien, c'est souvent ça, hein, je veux dire, dans le monde des arts, c'est souvent le cas, là. Puis surtout dans des artistes qui, de longue haleine comme Riopelle, des fois, il y a souvent une femme qui est pas loin dans le processus créatif puis qui est mis à l'écart plus ou qui est plus dans l'ombre de l'homme.
Oui, puis Martine Delvaux se la pose, cette question-là, si tu me permets. Un extrait, chère animatrice.
J'adorerais un extrait.
Elle nous pose plusieurs questions à travers cet ouvrage-là, qui est un essai que... En tout cas, sur la ligne du roman, moi, je le trouve très, très poétique comme essai. Qu'est-ce que ça prend pour apparaître, pour exister? Et quand on est une artiste, quand on est une femme, quand on est une femme artiste, quand on est la femme d'un artiste? Il y a une partie de la réponse qui se trouve dans « Ça aurait pu être un film ». Ce travail d'enquête-là a duré 4 ans pour Martine Delvaux. Elle a développé une fascination pour Otis Jeffcoat. Un travail d'enquête qui a été parsemé de fantômes parce que petit à petit, les rencontres qu'elle voulait faire pour documenter son travail, elle se rendait compte que les gens autour d'Otis décédaient. Elle-même est morte juste un peu avant le début de son travail d'écriture. C'est pas une biographie, c'est pas un scénario, c'est pas un livre sur l'histoire de l'art, mais c'est un peu tout ça à la fois. C'est romancé, on a accès au livre qui est en train de s'écrire, donc au fil de la pensée de Martine, à ses réflexions sur l'écriture, sur l'art en général. La chronologie est éclatée, ce qui fait qu'on va être dans la rencontre avec le producteur. On sait que le film est annulé. On retourne dans le Paris des années 70. J'ai tellement eu le goût d'habiter la chambre dans la tour. Puis d'être à la place d'Olysse, ça donne le goût de partir en voyage puis de consacrer sa vie. Alors, faites attention. En lisant, ça aurait pu être un film.
Puis comment... toi qui as lu différents textes là, de Martine, je t'avoue que moi, le premier livre que j'ai lu de Martine Delvaux, c'était « Le monde est à toi », qui était un super beau livre, une belle ode à sa fille, en fait. Qu'est-ce qui différencie « Ça aurait pu être un film » de ces autres œuvres que tu as lues?
Bien, c'est une première incursion vraiment dans le monde des arts en soi, dans le monde de l'histoire de l'art. Ça me donne certaines clés de compréhension pour comprendre des tableaux. Ça m'amène à réfléchir beaucoup à la place des artistes, à qui est propriétaire des artistes, de leurs œuvres. Mais la place des femmes, de la femme, en tout cas ici, Otis Jeffcoat, est super importante et ça reste au cœur de tout le travail de Martine Delvaux. T'sais. Puis, je sais pas, ça fait réfléchir. T'sais, j'ai dû accélérer là, ma lecture pour l'avoir terminée pour la chronique, mais j'avais vraiment envie de l'étirer puis de la savourer. C'est du bonbon. C'est un bijou littéraire. Là. Puis c'est vraiment une forme qui est hybride. On est un peu dans l'essai, dans le roman. Mais ça, Martine Delvaux a ça dans d'autres ouvrages aussi. Là, dans Pompière et pyromane, c'est le cas.
Mon Dieu, je fais comme une incursion.
Incursion de Amy,
oui,
qui est avec nous
en comme là en fantôme. Mais oui, puis tantôt, tu as parlé de Le monde est à toi, dont Pompière et pyromane est un peu... La suite, là, ça fait longtemps que Martine Delvaux travaille les formes hybrides, puis mélange aussi, où se met beaucoup en scène aussi dans les histoires qu'elle raconte. D'ailleurs, hâte de voir comment Pompière et pyromane pourraient être transposés au théâtre. J'ai hâte de voir, très curieuse. Mais en tout cas, le court extrait que tu as lu donne très envie de de s'y plonger. Là.
C'est un beau résumé. Ça résume bien le propos, je trouve, là, l'extrait que tu nous as lu.
Et j'ai mis tellement de petits cœurs en marge, ça a été difficile de faire un choix quand même, je vous avoue. Pourquoi les histoires nous intéressent autant? Est-ce que c'est du voyeurisme? En quoi les biographes et les journalistes se distinguent-ils? Tu sais, les artistes, est-ce qu'on les aime vraiment ou est-ce qu'on profite d'eux pour faire de l'argent en revendant finalement leurs œuvres à l'encan puis aux enchères plus tard? Y a une distinction entre posséder une sculpture puis, tu sais, un livre, on peut pas être comme propriétaire puis avoir un seul exemplaire chez soi. Donc, qu'est-ce qui distingue l'écriture de la peinture? C'est vraiment plein de belles portes puis de belles questions que pose ce livre-là. Puis, oui, c'est romancé, c'est poétisé, c'est pas une biographie. Mais bon, ça reste un essai, là, je le disais. Il y a quand même une statistique sur laquelle j'aimerais vous laisser, auditeurs, auditrices, qui traite...
Ben, j'avais une question, oui. Mais moi, j'ai comme entendu des rumeurs par rapport à ce livre-là, qui était... Mais peut-être que tu pourras me confirmer ou m'informer. Si c'est trop un spoil, tu peux m'informer confirmer. Hors d'onde, avec un signe visuel. Si on veut pas divulgâcher, mais... Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être des relations avec d'autres femmes dans ce qui était trouvé sur l'artiste, alors qu'on l'avait toujours mise en parallèle, justement, avec Riopelle. Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Peut-être, dans le livre, peut-être divulgâcheur, si vous voulez pas entendre, bouchez vos oreilles.
Ah, mais ce n'est pas un divulgâcheur, tout à fait. Là, on sait que la relation entre Alice Jeffcoat et Joanne Mitchell était...
Okay.
Amicale forte, charnelle,
des bonnes amies,
des colocs. Oui, puis Alice Jeffcoat a fini quand même sa vie avec une partenaire, donc il y a cet élément-là aussi qui est au centre de l'œuvre, de voir quelles relations ils ont eues, ça fait partie de l'enquête de Martine Delvaux aussi.
Et de ces trois œuvres que tu nous as parlé aujourd'hui, ça aurait pu être un film de Martine Delvaux, Rester fleurir de Jean-Félix Chénier et Un loup dans la main de Annie Cloutier. C'est des nouveautés, oui, certes, mais est-ce que tu as trouvé un fil qui les unit, un thème qui unit ces trois œuvres?
Vrai, parce que normalement, mes chroniques ont des thèmes. Puis là, le thème, c'était nouveauté littéraire.
C'est correct, c'est un thème.
Oui, mais en lisant ces trois œuvres-là, je me suis rendu compte que la peur, même si c'est pas nommé comme ça, est quand même assez centrale. Bon, dans Un loup dans la main, c'est assez dans ta face, là, t'as peur des monstres en allant te coucher. Dans Résister et fleurir, j'ai l'impression qu'il est question de pas se laisser abattre par la peur, tu sais, puis d'enclencher quand même des mouvements sociaux, de faire le petit pas dans notre communauté, puis de pas avoir peur de Goliath, là, qui est la grosse compagnie qui va s'installer avec ses conteneurs, tu sais, donc de... Je sais pas comment dire, de renverser le triangle de l'inaction, puis faire son petit bonhomme, sa petite bonne femme de chemin. Puis dans ça aurait pu être un film... Cette peur-là, tu sais, Martine, le film, ça a pas fonctionné finalement là, pour Martine Delvaux. Puis c'est devenu un livre, tu sais, c'est pas arrêté parce que le projet du film marche pas. Il y a la peur d'abandonner la peur pour consacrer sa vie à l'art aussi, là, ce qu'a fait Alice Jeffcoat. Vraiment tout à fait. Donc, je pense que c'est le petit filon que je peux établir a posteriori après avoir fait la lecture de ces trois livres-là, Noémie.
Donc, la peur, quels les termes qui ont uni ces trois œuvres-là. Ça aurait pu être un film de Martine Delvaux, Résister et fleurir de Jean-Félix Chénier et Un loup dans la main de Annie Cloutier.
Statistique de fermeture.
Oh!
Ça sera peut-être pas un rituel, mais Martine Delvaux nous apprend qu'au Louvre, 25 femmes sont référencées sur 3600 peintres. Ça m'en fait plaisir.
Merci pour ce pas trop fun fact.
Non.
Et c'est avec cette statistique de Martine Delvaux qu'on conclut l'émission d'aujourd'hui.
Festif.
Oh yeah! Je souhaite remercier nos chroniqueuses d'aujourd'hui d'avoir participé à l'émission. Ça m'a fait plaisir d'avoir Amy pour parler de Bottom, un film qui est en ce moment au clap dans les heures très tard le soir. Merci aussi à Élise Rivrain pour sa première chronique pour parler de passages insolites. Vous aurez l'occasion de l'entendre davantage dans d'autres chroniques d'art visuel sur les ondes de Chiz. Ah, chérie, j'arrive. Et un merci tout spécial à Maxime Demeul pour ses belles chroniques littéraires qui nous permettent d'en apprendre un peu plus sur la vie des arts. Ça aurait pu être un film de Martin Delvaux, Résister, fleurir de Jean-Félix Chénier et Un loup dans la main de Annie Cloutier. Des lectures qui sont recommandées par notre chroniqueuse littéraire. Et soyez là demain. Mardi, c'est aujourd'hui, mais mercredi, il y aura une autre émission de Chérie, j'arrive de 16h à 17h30. Nous allons recevoir notre chroniqueur littéraire Alex T. Lamarche. Nous allons aussi parler de nouveautés musicales avec Mémo Gauthier et Kim Letourneau. On va aussi parler des prochains, des shows à ne pas manquer. On parlera aussi de Spoken Word Québec pour parler de leur début de saison et du spectacle qui sera à venir ce jeudi 28 septembre. Alors, chérie, est-ce qu'on se voit demain à l'émission? À Chérie, j'arrive! OK, bye!